Donc j'appelle le troisième axe. Donc Marlène Martin, Sonia Wada, Mounata Mar, Nathalie Casso-Vicarini et alors je crois qu'il est plutôt en Zoom. On a Yannick Raffenel en Zoom. Donc okay. Installez-vous mesdames. Donc que des dames. Merci. Je vous laisse donc démarrer et je vous affiche aussi le lien pour commencer à voter. Et on n'hésitera pas à revenir après sur les résultats du vote. Et merci à vous pour votre patience, puisqu'on a un tout petit peu de retard. Donc, on finira sûrement avec 10 minutes de retard. Donc, merci à vous.
Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux à venir écouter les résultats de nos travaux. Donc, on a décidé de regrouper deux des axes de nos travaux, la question de la petite enfance et la question de l'IA et l'éducation. L'idée est de vous convaincre que ces deux axes s'inscrivent vraiment dans la continuité de toutes les propositions précédentes et elles se situent même en amont, à vrai dire, d'une certaine façon, puisqu'elles concernent ceux qui vont rendre possible le plein déploiement de cette transition écologique, inclusive et numérique. C'est sur eux, sur nos enfants et sur nos jeunes que tout repose de ce point de vue-là. Les conclusions auxquelles on aboutit dans nos livres blancs, que je vous invite à lire en détail, qui résultent de plusieurs années de travail maintenant, s'orientent vers deux conclusions principales. L'importance en ce qui concerne la petite enfance d'avoir un vrai plan d'investissement dans les compétences de ces professionnels en s'appuyant pour le coup sur la recherche. Tout à l'heure, Monsieur Distinguin et Elisabeth Achmagnan ont indiqué qu'il était important de s'appuyer sur la recherche. Eh bien, en ce qui concerne la petite enfance, on a beaucoup de travaux de recherche qui gagneraient vraiment à être utilisés et qui peuvent être utilisés et qui doivent être le socle de ces nouvelles formations des professionnels. Et Maï va pouvoir nous détailler cette question de l'importance de ces nouvelles formations. Et puis, en ce qui concerne la question de l'IA et de l'éducation, c'est évidemment au service des enseignants et des élèves qu'elle doit être mise. Il y a encore aussi beaucoup de travaux à faire, mais aussi des travaux sur lesquels on peut s'appuyer, à la fois par rapport à ce qui vient d'être dit dans l'axe précédent, pour permettre à un maximum d'enfants et de jeunes de connaître et d'être initiés dès leurs années d'école aux enjeux et aux pratiques et aux techniques, filles comme garçons bien évidemment, et quel que soit le milieu d'origine de ces enfants. Et voilà, c'est vraiment en associant les enseignants et les jeunes au déploiement et à l'invention de ces nouveaux outils qu'on pourra avancer vraiment. Et évidemment, ces deux axes s'inscrivent dans une exigence d'égalité des chances qui voilà, nous réunit tous aujourd'hui. Et sans appui sur les enfants et les jeunes, on ne pourra pas atteindre ces objectifs dont ils seront les premiers bénéficiaires. Donc je vais passer la parole à Maï qui va nous présenter quelques-unes des propositions parmi de très nombreuses. Et à nouveau, je vous invite à lire notre livre blanc.
Un grand merci Marlène. Effectivement, nous avons travaillé sur cette thématique de la petite enfance et nous avons plus de 30 propositions. Donc je vais juste en reprendre 4 pour vous permettre effectivement de vous rendre compte de l'investissement aujourd'hui qui est nécessaire dans ce secteur. Le premier point assez important, c'est vraiment ce qu'on appelle le droit opposable à l'accueil. Il s'agit vraiment de permettre à chaque famille de pouvoir choisir l'accueil de son choix, que ce soit effectivement un accueil individuel ou collectif. Et il s'agit vraiment à ce stade aujourd'hui de pouvoir renforcer à la fois la performance de notre système d'accueil, la question de la qualité éducative est bien sûr essentielle, et de pouvoir aussi augmenter effectivement les capacités d'accueil aujourd'hui. Il s'agit aussi, en deuxième proposition, de pouvoir décloisonner finalement l'accompagnement qui est proposé aux enfants. On a effectivement cette vision d'abord d'un accompagnement 0-3 ans qu'on appelle en France petite enfance. C'est vraiment une spécificité d'ici. Hein. Autre part, c'est vraiment un accompagnement entre 0 et 6 ans. Et donc, il s'agit effectivement de permettre la continuité entre la petite enfance et la maternelle. Et cette proposition, effectivement, s'inscrit aussi dans l'idée que qu'elle puisse être portée par un ministère de la petite enfance qui pourrait nous permettre effectivement de mieux comprendre et appréhender ces questions de développement de l'enfant. La troisième proposition concerne les professionnels, puisque sans les professionnels, nous ne pouvons pas accomplir de transformation dans ce secteur qui est essentiel. Il s'agit de permettre à ces professionnels de monter en compétences. L'idée est vraiment de leur permettre de monter d'un cran en termes de niveau de qualification. On sait aujourd'hui effectivement qu'il y a des fortes disparités entre les différents modes d'accueil et même au sein des modes d'accueil. Et donc, il s'agit effectivement par cette mesure d'avoir un plan dédié d'investissement dans les formations et de permettre l'obtention de qualifications. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous invite vraiment à lire le livre blanc pour vous rendre compte effectivement de ce que ça représente. La dernière proposition consiste à refondre les grilles de rémunération de ces professionnels, puisqu'il est essentiel aujourd'hui de pouvoir les valoriser. On sait à quel point aujourd'hui ces professionnels sont parfois très précarisés alors qu'on a besoin d'eux. Et donc, ces grilles de rémunération vont à la fois déjà permettre de rattraper le retard qui existe aujourd'hui par rapport à leur rémunération, mais aussi dans cette visée de monter en compétences, de pouvoir monter d'un cran et donc valoriser financièrement ces compétences. Voilà, n'hésitez pas à aller sur transitioninclusive.org pour retrouver nos propositions. Je vais passer la parole du coup à Nathalie Kassovikarini.
Merci beaucoup. Vraiment heureuse d'être ici avec vous et pour porter les valeurs de la petite enfance. Ah pardon. Sur les propositions. Non. Oui, sur la petite enfance. Alors j'y vais. On a besoin d'être agile. Donc notre association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance, en effet, c'est vraiment son cœur de métier d'outiller les professionnels pour accompagner les parents et le développement de l'enfant. Et il faut être très ambitieux pour travailler auprès des enfants, parce que les enfants, ils sont tous uniques et ils ont bien besoin d'être accompagnés dans leur potentiel infini. Alors, les propositions, elles sont extrêmement intéressantes et j'ai envie de les décliner dans la pratique terrain. Donc, ça ne va pas être très long, mais la première, c'est vraiment ce conseil d'orientation de la petite enfance qu'on voit bien de façon interministérielle. Parce qu'en effet, il faut accompagner la continuité éducative. On est dans un pays où on met beaucoup de... Voilà, il y a des silos, des petites boîtes, mais le développement de l'enfant, on ne le découpe pas en tranches. Ce n'est pas possible. On voit dans les pays les plus avancés, qui sont les pays du Nord, le Québec, l'Australie, il y a vraiment cette continuité qui évite les ruptures sur le parcours de l'enfant. Et comme l'enfance est jalonnée de périodes sensibles, eh bien, c'est vraiment l'outil fondamental qui va nous permettre de grandir et de mieux accompagner nos enfants. D'ailleurs, je voudrais féliciter les professionnels de la petite enfance, parce qu'ils sont nombreux à nous écouter aujourd'hui. Et chapeau d'avoir traversé la crise comme ils l'ont traversée. En voilà une autre qui ne va pas être simple non plus. D'où toutes les mesures qu'on met en place, qu'on aimerait valoriser pour eux, parce qu'ils sont ceux qui vont nous permettre d'avancer dans notre société et de rendre notre société meilleure. La petite enfance, vous investissez 1 euro, vous évitez 13 euros en termes de prévention pour réparer des dégâts plus tard. Donc cet investissement-là, il est extrêmement important. Il n'y a pas de meilleure garantie pour le futur que d'investir dans la petite enfance. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on répète régulièrement. On fait des congrès avec l'OCDE tous les 2 ans. On a mis en place une coalition européenne au sein de l'association. Vous êtes les bienvenus pour vous y associer. Mais en tout cas, il faut faire monter le niveau de conscience collective que quand on s'intéresse à une société, on s'intéresse d'abord à ses petits-enfants et bien avant l'école. Il se passe beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a un article, il y a 18 pages dans Challenge sur cette question-là de l'investissement social. Évidemment, supprimer les cloisonnements parce qu'on veut prévenir les ruptures. Ce métier de la petite enfance, c'est le métier le plus complexe qui soit. On n'accompagne pas nos enfants aujourd'hui comme on les accompagnait hier. La science est passée par là, les neurosciences, l'épigénétique, l'impact du quotidien sur le développement de nos enfants, il est fondamental et il bouge en permanence en fonction des recherches. Donc c'est compliqué tous les enfants, chaque enfant est unique et c'est un métier qui est complexe. Il y a aussi la relation avec le parent et donc ça nécessite de notre avis au moins 3 ans d'études pour accompagner le développement et pouvoir permettre à ces enfants d'aborder leur vie sereinement. Voilà. Or, aujourd'hui, la France est au 27e rang sur 35 des pays de l'OCDE en matière de qualification dans la petite enfance. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur de notre société. Rendre les métiers attractifs, parce qu'aujourd'hui, il y a une fuite des métiers de la petite enfance. Il y a eu beaucoup de démissions pendant la crise sanitaire. Les valoriser avec un parcours, une évolution professionnelle, une VAE, évidemment, qui est très, très importante, et l'augmentation des salaires. Arriver à un salaire qui soit au minimum aligné sur celui des professeurs dans l'éducation nationale à partir de la maternelle. Ce qui va permettre aussi ces transitions dans les meilleures conditions. Et quand on parle de ministère, je pense au ministère de l'enfance, parce que comme ça, on peut englober toutes ces périodes jusqu'à l'école. Concernant les professionnels, le dernier point, on tient beaucoup à l'amélioration continue des pratiques. Parce que les pratiques ne sont pas figées, elles sont basées sur ce que la science nous apporte. Et ça, c'est fondamental de se mettre à jour en permanence, autant dans la formation initiale que dans la formation continue. Voilà, il y a un programme qui s'appelle, une approche qui s'appelle Accompagne-moi, qui est issue de la première recherche en santé sociale, dont vous allez beaucoup entendre parler, pour le soutien des parents aussi, et notamment des plus invisibles. Les amener vers l'accueil formel, ça c'est fondamental, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de structure qui permette de tisser cette relation de confiance avec les parents vers l'institution et vers l'accueil formel. Et ça aussi, c'est un des grands enjeux de nos travaux.
Un grand merci pour tous ces éclairages. Du coup, Sonia va pouvoir effectivement prendre la suite.
Merci Maïmounatoum. Voilà, parmi les 28 propositions que nous faisons dans notre livre blanc sur mettre l'IA au service des enseignants pour assurer l'inclusion et le développement des capacités de tous les élèves, nous avons choisi 4 propositions clés. D'abord, la première proposition, c'est permettre à tous les professionnels de l'éducation de comprendre et partager les enjeux de l'IA et promouvoir les plateformes de partage d'outils et d'expériences pour les enseignants. Pour cela, plusieurs dispositifs sont possibles. Une formation continue pour acculturer les enseignants en exercice, mais également une formation théorique interdisciplinaire aux enjeux de l'IA sous la forme d'une unité d'enseignement centrée sur la donnée, la notion d'algorithme, la finalité pédagogique de l'usage de l'IA et l'éthique. Également, le partage de résultats de travaux de recherche-action et penser. Et puis pour cela, 2 missions transverses viendront en appui à ces actions. Nous avons pensé à un plan d'information consacré à l'IA à destination des enseignants, mais également le renforcement du rôle des DAN et des CARDI pour accompagner cette transition. Une deuxième proposition est de développer les enseignements et les ressources permettant à chaque élève de se former le plus tôt possible aux problématiques de l'IA et à l'usage des dispositifs numériques intégrant l'IA. Et pour cela, nous suggérons entre autres une sensibilisation précoce à la question des algorithmes dans le cadre d'un enseignement à ce sujet, dès le collège, voire plus précocement. Et pour apprivoiser l'économie de l'attention, nous suggérons de concevoir et mettre à disposition des élèves des outils qui leur permettent de se responsabiliser dans la gestion de leur attention. Une troisième proposition serait d'accélérer le déploiement des solutions d'IA centrées sur les élèves en difficulté et ceux à besoins éducatifs particuliers pour assurer l'égalité des chances. Et pour cela, nous suggérons des solutions d'IA orientées de manière préventive pour identifier les risques et faire face aux difficultés de repérage de certains troubles, par exemple, mais également en termes de remédiation auprès des élèves en cours de décrochage pour permettre plus d'individualisation dans le suivi et concevoir de véritables environnements capacitants. Également, l'IA peut servir d'outil de remobilisation et de réinsertion auprès des élèves ayant décroché en misant sur la connectivité. Ces usages, évidemment, nécessitent une vigilance spécifique pour limiter les risques d'étiquetage et de profilage. Une quatrième proposition, c'est de mettre en place une politique européenne d'investissement en matière d'EdTech, et en particulier d'IA et d'éducation. Cette finalité La finalité de cette proposition, pardon, est de développer un modèle européen et de garantir la souveraineté, une souveraineté pédagogique. Il s'agit donc ici d'articuler entre le cadre européen des coopérations, des recherches de projets, des collectes de données, etc., avec le cadre national de la souveraineté pédagogique et des modèles éducatifs. Alors voilà, c'est à vous maintenant de réagir.
Oui. On ne vous entend pas. J'espère qu'on m'entend.
Donc, nous accueillons donc le. Pardon, j'allais dire nous accueillons le coprésident d'EdTech France.
Oui, merci Yannick Raffnel. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir participer, même en étant à distance. Ce livre blanc était absolument exceptionnel et il contient vraiment énormément de très 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 bonnes propositions. J'avais envie d'aller un petit peu challenger les choses et donner moi l'écho, puisque EdTech France, ça regroupe à peu près 400 entreprises qui sont toutes engagées pour aller développer des dispositifs, des ressources, des systèmes qui utilisent le meilleur du digital pour l'éducation, l'enseignement sup et la formation pro. Et j'avais envie de démarrer sur la troisième des propositions clés où vous dites on va accélérer le déploiement des solutions d'IA centrées sur les élèves en difficulté et ceux à besoins éducatifs particuliers. C'est vraiment une porte d'entrée qui est intéressante parce qu'il faut ramener toujours l'IA à la place d'outil. C'est un outil qui va pouvoir permettre d'aller détecter des comportements, des difficultés et qui va pouvoir permettre de manager cet accompagnement individualisé. La promesse du digital en éducation, c'est bien de pouvoir aller vers de l'individualisation, de la personnalisation de l'accompagnement. Et ça, pouvoir centrer dès le départ ces actions auprès des publics, il y en a à peu près 20% aujourd'hui hein, d'enfants, d'élèves qui sont neuroatypiques, qui sont dyslexiques, dyspraxiques et qui ont besoin de cette aide personnalisée. C'est donc quelque chose d'absolument essentiel. Après, vous avez insisté sur cette nécessaire accompagnement au changement des professionnels de l'éducation. C'est absolument indispensable. Aller se servir de ces outils, eh bien, ce ne sont pas des outils magiques. Et au-delà de la simple formation à la prise en main, l'enjeu réel, c'est la transformation de la pratique pédagogique. Il ne peut pas y avoir d'utilisation de l'IA dans le monde de l'éducation sans qu'il y ait une transformation des postures pédagogiques de ces professionnels parce que cela vient absolument chambouler la forme scolaire, l'organisation même de la classe et de l'écosystème qui est autour avec la continuité qu'il peut y avoir avec les parents, avec les associations périscolaires, avec tous ceux qui travaillent autour de l'école, qui tous luttent pour pouvoir prévenir le décrochage scolaire, qui tous ont cette motivation de pouvoir aller se servir du meilleur du digital et donc au travers de l'IA pour pouvoir aider et faire que ça puisse bénéficier à tout le monde. Donc, cette simple prise en compte de la formation à l'IA ou au code ou aux algorithmes, c'est une couche, mais c'est une couche superficielle. Ça ne sera absolument pas suffisant et ça serait se tromper que d'aller tout mettre l'accent là-dessus. Et pour moi, c'est peut-être le seul point que j'ai relevé dans ce livre blanc qui m'a fait tilter en me disant ça manque et je serais tout à fait partisan d'aller rajouter ce point-là. Après, le fait d'aller mettre une politique européenne d'investissement, c'est absolument fondamental puisque les enjeux autour de l'éducation sont fondamentaux avec une idée que nous devons tous garder en tête, c'est que cette éducation, elle se fait tout au long de la vie maintenant et que l'investissement qui doit être fait dès à présent, c'est quelque chose qui doit pouvoir permettre de transformer le vécu de tous les citoyens, quel que soit leur âge, pour pouvoir intégrer enfin le plaisir d'apprendre tout au long de la vie. parce que si on pouvait mettre enfin un terme à un vécu traumatisant autour de l'école, de l'évaluation et de la sanction ou du jugement, pour pouvoir utiliser tout ce que la techno, tout ce que la EdTech peut permettre de faire aujourd'hui, eh bien, nous franchirons un grand pas qui bénéficiera à toutes les générations. Donc, je ne veux pas consommer plus de temps avec juste une toute petite remarque pour conclure et pour pouvoir faire le lien avec juste le point précédent hein, sur la petite enfance. N'oublions pas non plus, puisque là, nous parlons de la petite enfance et nous venons de parler de l'enseignement, il y a une autre population fondamentale qu'il ne faut pas oublier, qui sont les éternels oubliés. Un enfant à 7 ans aura passé plus de temps avec ses héros discrets de l'éducation qu'avec des enseignants, que sont les professionnels de la petite enfance, mais aussi tous les professionnels du périscolaire, tous ceux qui s'occupent de l'accompagnement des enfants hors la classe. Ce sont des gens qui n'apparaissent nulle part dans aucun plan de formation. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de professionnalisation pour ces métiers essentiels pour le devenir de nos enfants. Donc là aussi, c'est un point qu'il serait bien de pouvoir rajouter. Merci.
Merci beaucoup pour ces présentations qui permettent de faire le lien et qui montrent la cohérence entre tous ces projets. Et merci aussi pour cette visibilisation de ces autres personnels, effectivement, que sont tous les accompagnants périscolaires. Alors, peut-être qu'on peut avoir... Est-ce que ça va marcher par rapport au sondage sur les propositions?
Merci, mesdames. Merci d'avoir présenté Monsieur Raffenel aussi. Je propose qu'on enchaîne avec l'axe suivant et on regardera les résultats du vote après.